Drive to Zero, le salon européen des solutions pour le déploiement des mobilités décarbonées, les 2 et 3 juin 2026, à Paris Expo, Porte de Versailles, sur Radio Imo et Radio Territoria.
Et notre invité sur le plateau Radio Imo, Radio Territoria, sur ce salon Drive to Zero, c'est Clément Molison, délégué général de l'Aver France. Bonjour Clément.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Un mot sur l'Aver France, qui est l'association nationale de référence pour le développement de la mobilité électrique en France. Créée en 1978, l'Aver fédère l'ensemble de l'écosystème de l'électromobilité, constructeurs automobiles, énergéticiens, opérateurs de recharge, collectivités, entreprises, acteurs des transports et de la mobilité. J'ai tout bon jusque-là ?
C'est parfait. C'est
merci parfait. Beaucoup. Alors Drive to Zero est devenu en quelques années un rendez-vous incontournable de la mobilité décarbonée. Quel message principal l'Aver France vient-elle porter cette année ici à Paris ?
Tout à fait, nous c'est la quatrième année, on était là dès la première édition, on a connu les différents lieux où Drive to Zero s'est implanté. On vient avec nos adhérents, on a un village de l'électrique avec tous les ans un peu plus d'une dizaine d'adhérents qui nous accompagnent pour montrer au grand public, aux professionnels qui viennent sur ce salon, ce qu'est l'écosystème de la mobilité électrique. Nous c'est ce que l'on veut démontrer qu'il y a déjà un écosystème mature avec des professionnels engagés qui sont présents. Et puis on est également là avec notre programme Advenir qui est un programme de financement de bornes de recharge, qui est aussi un programme de formation pour pouvoir discuter déjà là, avec les professionnels, éventuellement faire aussi de la sensibilisation plus grand public.
L'Aver France annonce près de 195 000 points de recharge ouverts au public en France, sur le territoire. Peut-on dire aujourd'hui que la bataille des infrastructures est gagnée ou est-ce qu'il reste encore des angles morts territoriaux notamment ?
Je vais être un peu provocateur, oui. Oui. Oui.
Et réaliste en même temps, enfin voilà, honnête en tout cas.
Et en fait aujourd'hui, tous les discours qui consistent à dire que la France est en retard, qu'on n'a pas de bornes, il n'y a pas assez de bornes, aujourd'hui c'est faux. Mais c'est vraiment faux. On a le troisième plus grand réseau de recharge en Europe. On a des acteurs qui sont déployés partout. On a réussi à déployer sur le réseau routier, autoroutier, en moins de 2 ans. Il n'y a pas un pays dans le monde qui a réussi à faire ça aussi rapidement. Donc oui, aujourd'hui, on a de la recharge partout. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter là, parce qu'il y aura de plus en plus de voitures électriques et donc il faut continuer à développer la recharge publique qui va venir les accueillir. Et il y a évidemment des territoires qui sont moins dotés que d'autres, mais on sait aussi bien que la France, elle est extrêmement hétérogène. On a des territoires très densément peuplés, d'autres qui le sont moins. Et notamment dans les territoires ruraux moins densément peuplés, on sait qu'on a plus généralement de maisons, d'un accès à la recharge chez soi avec un garage. Donc on a moins besoin de la recharge publique. À l'inverse, dans un grand centre urbain, parfois on n'a pas de parking. Donc il ne faut pas tout à fait regarder ça avec une logique de zone blanche comme avec le numérique ou des endroits où on ne pourrait pas se recharger.
C'est vrai qu'on fait souvent la comparaison, effectivement. Ouais.
Et on la comprend, on comprend pourquoi on fait cette analogie. Néanmoins, il faut aussi intégrer la recharge privée. Et la recharge privée, elle est disponible à peu près partout et on continue à l'accompagner.
Alors même si les chiffres sont plutôt bons pour les ventes de véhicules électriques qui sont en train de progresser très, très largement, on a appris ça aujourd'hui, les Français restent quand même parfois hésitants face aux véhicules électriques, autonomie, recharge, coût, valeur de revente. Quelles sont selon vous, Clément, les idées reçues les plus tenaces aujourd'hui en 2026 ?
Déjà, je pense qu'il faut dire que les Français font partie des peuples les plus hésitants sur la question, alors même qu'on est en Europe en tout cas l'un des marchés les plus dynamiques avec à la fois des constructeurs nationaux, des acteurs nationaux sur la recharge, sur la production d'énergie, bref, on a tout l'écosystème en France et on a une partie de la population qui est la plus récalcitrante. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui relève aussi de, un peu de notre caractère français, une petite hésitation, une petite peur du changement, une peur de se tromper aussi, je pense, de se tromper éventuellement et de se dire il y a peut-être quelque chose de mieux qui arrivera derrière. Donc je pense que déjà, il y a aussi une perception un peu globale à changer sur la mobilité électrique, sur ce qu'elle veut dire. La mobilité électrique, c'est évidemment une question de décarbonation de qualité de l'air, mais c'est pas que ça. Aujourd'hui, je pense que tous les Français qui vont à la pompe toutes les semaines parfois pour faire le plein se rendent bien compte qu'il y a un problème. Il y a un problème à être dépendant d'énergie fossile, d'être dépendant d'énergie qu'on va importer de pays qui sont pas nos alliés, notamment qui viennent d'une poudrière qui est le Moyen-Orient, où malheureusement ce choc-là, ce sera certainement pas le dernier. Et donc c'est aussi une question de souveraineté. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment mieux cadrer la mobilité électrique dans son ensemble. et continuer, c'est ce qu'on fait notamment avec notre site jeroulenelectrique.fr, à attaquer chacune des idées reçues qui sont pas... qui parfois relèvent d'une espèce de faux sens commun ou parfois aussi d'idées dépassées. Mais les idées reçues, on les connaît. Voilà, c'est est-ce que la batterie, elle va durer toute la vie ou il va falloir en changer au bout de 3 ans comme la batterie sur ma voiture thermique.
Ouais.
Non, c'est pas la même batterie, heureusement. C'est trop cher ou c'est trop cher à l'achat, ça c'est vrai. Mais est-ce que c'est trop cher à l'utilisation ?
Ouais.
C'est pas le cas.
Ça baisse aussi à la vente.
Exactement. Dès 2 à 4 ans, en fonction de l'utilisation, on a une rentabilité. Sur l'empreinte environnementale, et je pense que c'est l'un des axes qui, en termes d'idées reçues, qui a le plus progressé malheureusement. C'est-à-dire qu'à la fois, on n'a jamais eu autant d'études démontrant que la voiture électrique était... environnementalement plus intéressante, qu'elle avait une empreinte carbone plus faible que le thermique. Et c'est dans le même temps, on a eu un développement beaucoup plus fort d'idées reçues sur les batteries qu'on ne saurait pas recycler, qu'on jetterait dans la nature, dont on ne sait pas quoi faire, d'une voiture qui pollue énormément au départ, mais en oubliant après qu'elle ne pollue plus du tout. Enfin bref. Il y a quand même encore beaucoup de travail à faire, de pédagogie, et puis aller à la rencontre des Français qui ont des questions et qui sont ouverts au dialogue.
Finalement, cette crise pétrolière que l'on connaît actuellement, alors même, bien évidemment, même si personne ne l'a souhaité et ne la souhaite, finalement, elle est plutôt favorable au développement du véhicule électrique.
Et déjà, vous avez en introduction rappelé notre date de création, 78.
Oui.
En fait, la Vert France, elle s'est créée dans les chocs pétroliers des années 70.
Ouais.
Elle s'est créée à une époque où, au niveau européen, dans différents pays et auprès des instances européennes, a commencé à se poser la question de notre dépendance aux énergies fossiles et aux alternatives qui étaient possibles à ce moment-là. Et donc l'électrique avait déjà était déjà apparu. Et je pense qu'aujourd'hui, pour moi, le principal enjeu autour de cette crise, c'est bien que la prise de conscience de cette dépendance et de ses conséquences reste, y compris... quand dans quelques mois, quelques années peut-être, on verra combien de temps dure cette guerre et ses conséquences, quand les prix rebaisseront, ce qu'on espère quand même,
pour
l'économie du pays, pour les transporteurs de marchandises, de voyageurs, pour les ménages précaires qui n'ont pas encore pu passer à l'électrique, c'est important. Mais il faut garder cette prise de conscience parce que cette crise-là ne sera pas la dernière, cette guerre-là ne sera pas la dernière. Et là, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est préparer le prochain choc.
Pour revenir sur Drive to Zero, les collectivités locales jouent un rôle clé dans la transition. On le voit, elles sont bien présentes ici sur ce salon. Quelles sont aujourd'hui, selon vous, Clément, les villes ou territoires qui vous semblent les plus inspirants en matière de mobilité zéro émission ?
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Les collectivités, elles ont joué, elles jouent toujours un rôle essentiel sur la mobilité électrique. C'est notamment elles qui ont développé les premiers réseaux de recharge en France. C'est le premier maillage diffus qu'elles ont supporté à une période où peu de personnes imaginaient qu'on puisse avoir des discussions comme celles qu'on a aujourd'hui et des projections qu'on a sur le développement de la mobilité électrique. Donc, elles l'ont fait avec un vrai sens du service public pour proposer les premières solutions. Et là, certaines se reconfigurent, réfléchissent à leur avenir, retrouvent des alternatives. C'est évidemment extrêmement complexe de trouver de donner des noms, de trouver des collectivités qui se portent mieux. Mais quand même, je pense que ce qu'il faut quand même dire, c'est que il ne faut pas croire que la mobilité électrique... c'est un sujet d'urbain, c'est un sujet de métropole. C'est, moi, je vois au quotidien des syndicats d'énergie, notamment, qui sont extrêmement actifs, à la fois en développant leur réseau de recharge, en l'entretenant, mais aussi dans l'approche qu'ils ont vis-à-vis de leurs administrés, des concitoyens, d'une vraie approche. Certains organisent des salons sur la voiture électrique, aussi pour informer. Je pense que c'est vraiment de ça dont on a besoin aujourd'hui. C'est d'avoir une mobilité électrique qui soit remise comme un objet de mobilité dont certains ont besoin, d'autres n'ont pas forcément besoin. En ruralité, on a besoin de sa voiture dans l'immense majorité des cas et on l'utilise très souvent. Et donc la voiture électrique, c'est là où elle s'épanouit le mieux.
Alors on parle beaucoup des voitures particulières, des voitures électriques, mais le vrai défi concerne aussi les utilitaires, les poids lourds, les flottes professionnelles. Où en est-on réellement aujourd'hui de l'électrification du transport professionnel ?
Tout à fait, c'est un segment... alors, il y a les deux. Il y a vraiment deux sujets peu entre l'utilitaire léger d'un côté et le poids lourd de l'autre. Même si tout ça rentre souvent dans la logistique. Le véhicule utilitaire léger, il a longtemps été pénalisé par, d'une part, une offre un petit peu moins importante et puis aussi une fiscalité qui n'était pas très aidante. Il y a un certain nombre de taxes dont les VUL sont exemptées et donc l'écart de TCO n'était pas très positif. On a sorti une étude il y a quelques semaines de ça sur les véhicules utilitaires légers électriques qui me permet de montrer qu'il y a déjà un TCO qui est positif, qu'il peut y avoir des mesures qui permettraient de renforcer ce TCO-là ou de le rendre rentable plus rapidement. Et donc, il faut qu'on continue à appuyer là-dessus. Et sur le transport plus lourd, sur les camions, là également, on voit un changement qui est majeur. C'est-à-dire que moi, ce que je vois là dans les 3-4 dernières années, c'est un changement de mentalité que l'on a observé sur le véhicule léger en 10-15 ans. Les échanges qu'on a avec les transporteurs, les échanges qu'on a avec leurs fédérations évoluent extrêmement rapidement, aussi parce qu'on ne s'adresse que à des professionnels qui réfléchissent business. Et si on leur apporte les solutions, si on les accompagne de la bonne façon, ils n'ont pas d'animosité particulière ou à l'inverse d'appétence pour une technologie ou pour une autre. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir rouler, faire leur métier, le faire bien. Et un point qui n'est pas négligeable, c'est que pour les conducteurs de ces poids lourds, il y a un vrai confort de conduite réel. On en parle sur le véhicule léger. Quand vous passez votre journée au volant d'un véhicule, que ce véhicule il vibre beaucoup moins que votre véhicule thermique, et c'est un vrai changement pour les chauffeurs. Donc c'est en train de se développer, les constructeurs sont là, maintenant on voit que les transporteurs sont là. On a eu des nouvelles aides dans le cadre du plan d'électrification avec maintenant des montants qui sont vraiment significatifs. À 100 000 euros sur un camion électrique, on commence à avoir une bascule très forte.
Et est-ce qu'il ne faut pas aussi attendre le véritable développement au moment où on pourra avoir une autonomie plus importante au niveau des charges notamment ?
Je comprends la question, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'analyse. D'accord. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, il faut électrifier ce qui est électrifiable. Et donc, il faut regarder quels sont les modèles qui sont disponibles et comment vous pouvez les utiliser. Une grande partie des camions ne font pas un Paris-Marseille tous les jours ou traversent du Havre à l'Espagne. C'est pas ça. L'essentiel des camions, c'est de la logistique du dernier kilomètre. C'est des camions qui font quelques centaines de kilomètres par jour. Et l'essentiel, enfin les camions qui aujourd'hui existent déjà, électriques, qui roulent aujourd'hui, permettent de remplir tous ces usages. En revanche, il faut aussi préparer la suite. Les constructeurs de camions ont déjà prévu les commercialisations de camions qui peuvent aller à 800 km, en pensant quand même que les chauffeurs doivent s'arrêter régulièrement, ont des pauses obligatoires, et qu'au moment de ces pauses, ils feront leur charge. Et donc, c'est là où on aura aussi une adéquation entre les deux. Avoir un camion qui fait 2000 km quand vous êtes obligé de vous arrêter toutes les 2 ou toutes les 4 heures, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc voilà, c'est en train de se développer en fonction de ce qui peut être électrifié maintenant et de ce qu'on va électrifier un petit peu plus tard.
Voilà, une question de bon sens, bien évidemment. L'Europe fixe des objectifs ambitieux, mais sur le terrain, les industriels réclament davantage de visibilité et de stabilité réglementaire. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui des pouvoirs publics français et européens ?
Aujourd'hui, le débat qu'on a sur 2035, c'est l'instabilité. Le cadre, on l'avait. On l'a eu en 2023. Et les discussions qui ont été amorcées courant 2024 et en particulier en 2025, c'est ça qui crée l'instabilité aujourd'hui. Le cadre, il était là. On comprend une partie des industriels qui ont une inquiétude parce qu'on leur demande de transformer de façon majeure leur appareil de production, éventuellement leur rapport à leurs clients, parce que vendre une voiture thermique et vendre une voiture électrique, c'est pas exactement le même métier. Néanmoins, c'est une transition qui doit se faire, qui devait se faire dans les 10 prochaines années. Pour nous, c'est pas 10 ans avant l'obstacle qu'il faut se poser la question de savoir si on peut le réussir. Là, on est en train, pour nous, de réunir les conditions de notre échec plutôt que de discuter de comment réussir à faire cette transition-là. Il va y avoir des changements. On a une proposition de la Commission européenne en décembre qui vient réduire les objectifs, réduire l'ambition, sans pour autant renier la transition via l'électrification. Là, il est temps qu'on se décide, qu'on acte un nouveau cadre et qu'on s'y tienne. Nous, c'est ça qu'on attend aujourd'hui des pouvoirs publics européens, c'est d'avoir le courage de décider et de se tenir et de proposer aux industriels qui seront peut-être toujours inquiets des solutions pour leur permettre de réussir cette transition et des pouvoirs publics français en particulier. On a depuis plusieurs semaines maintenant un plan d'électrification, des messages extrêmement forts du Premier ministre, du Président de la République, ce matin ministre Tabarot, ministre des Transports Tabarot. Il est temps de faire le lien entre les deux. il y a un lien évident entre le plan d'électrification et 2035. La France aujourd'hui est plutôt dans une position de compromis. On aimerait que la France ait une voix un petit peu plus forte, parce que c'est pas que dans l'intérêt de la mobilité électrique, c'est dans l'intérêt des Français. On a de l'électricité, on est souverain, on a une électricité décarbonée, compétitive. Il faut qu'on l'utilise, ça sera bon pour le portefeuille des ménages, pour celui des entreprises.
Passer des paroles aux actes. Clément, l'expert que vous êtes, j'ai envie de lui demander si dans 10 ans, s'il a déjà une idée de à quoi ressemblera, selon vous, la mobilité du quotidien dans une métropole comme Paris, mais aussi dans les territoires ruraux.
Je pense que dans dans les grandes métropoles, on va peut-être quand même avoir certains phénomènes de démotorisation. Phénomène léger, mais tout de même, on voit déjà aujourd'hui que, notamment chez les jeunes, on a une moindre appétence sur la possession du véhicule. On verra si c'est un effet de génération, un effet d'âge. Peut-être qu'avec l'arrivée des premiers enfants, ça peut changer. Mais on voit que dans les plans d'urbanisme des villes, on voit plutôt une légère démotorisation. Surtout, je pense, important, une énorme électrification du transport de voyageurs. Ouais. On aimerait bien que l'Île-de-France se rappelle que l'électrique existe et permet de faire énormément de choses et que c'est une question de souveraineté. Et je pense qu'en ruralité, c'est là où on verra de plus en plus de voitures électriques parce qu'elles se rechargeront tous les deux soirs, tous les trois soirs, tranquillement dans le garage. Elles permettront à leurs utilisateurs de les utiliser toute la journée pour faire quelques dizaines de kilomètres, ce qui est largement faisable avec n'importe quelle voiture électrique, et de profiter de ne pas faire le plein de carburant conventionnel comme on peut le faire aujourd'hui. Donc je pense vraiment que la mobilité électrique, elle va tirer son plein potentiel dans les territoires ruraux. Et surtout, ce que l'on espère, c'est en parallèle de réussir vraiment cette électrification du transport routier, d'avoir des villes où on entend peut-être moins de bruit. Pense décarbonation, pense qualité de l'air, mais pensons un petit peu aussi au bruit. Je pense que si une partie de des véhicules roulants étaient à l'électrique, ça serait un petit peu plus calme dans les rues.
Et ça fera du bien. Pour terminer cet entretien, Clément, vous échangez quotidiennement avec constructeurs, énergéticiens, collectivités, opérateurs de recharge, bien sûr. Qu'est-ce qui vous rend aujourd'hui optimiste sur la réussite de la transition vers la mobilité décarbonée ?
Absolument tout. Quand on fait ce travail-là, quand on est dans ce secteur-là, on a besoin d'être engagé et d'être convaincu. Je suis absolument convaincu que la voiture électrique, c'est l'avenir de l'automobile, que de façon plus générale, l'électrification, c'est l'avenir de nos moyens de transport. Et quand je vois les échanges que l'on a avec nos adhérents, avec nos partenaires, je vois que des gens qui sont engagés, des gens qui ont envie de trouver des solutions, qui ont envie de faire en sorte que ça se passe bien et que cette transition, elle soit réussie, qu'elle soit juste d'un point de vue social, qu'elle soit aussi porteuse de valeurs, d'emploi. Et donc tout ça, ça me rend extrêmement confiant dans l'avenir.
Merci beaucoup, c'est passionnant de vous écouter.
Merci à vous.
Franchement, votre expertise nous fait du bien. Merci beaucoup Clément Molison, délégué général de l'AVER France. Merci d'avoir participé à cette séquence. Et on continue bien évidemment sur Radio Immo, Radio Territoria, à suivre avec nos différents invités ce salon Drive to Zero qui se tient ici à Paris, porte de Versailles. Merci à vous.
Merci.
Drive to Zero, le salon européen des solutions pour le déploiement des mobilités décarbonées, les 2 et 3 juin 2026 à Paris Expo, porte de Versailles, sur Radio Immo et Radio Territoria.